L'art peut être méchant, ennuyeux, féroce, doux, dangereux, harmonieux, laid et beau.
Bonsoir, l'invité de cette 9e fabrique de musique est l'auteur Mariette Navarro. La comprovisation que vous allez entendre ce soir a été enregistrée le 4 avril 2013 dans le studio Jet FM à Nantes. À l'issue de la performance, nous revenons sur le mode de la conversation libre, sur nos vécus respectifs et communs de cette expérience de création qui comprend un temps d'échange entre nous en amont de l'émission et le temps de la performance en direct. Bonne écoute!
Il, d'un doigt, fait s'arrêter la pluie. Il y a un peu trop longtemps que cela dure, il dit, le permanent automne, même en avril. Alors il lève la main comme on menace, et par hasard, ça marche et se tait, l'eau dans les rigoles. Il, alors, fait s'entr'ouvrir les nuages, pointe toujours de l'index pour voir et chatouillant la brume fait l'éclaircie et bâille. On va pouvoir sécher tout ça et ce sera déjà pas mal. Il fait un pas, deux pas sur le trottoir, prudent ondule entre les flaques, saisit son reflet d'un regard flou mais coloré, discrètement se salue de l'œil, vérifie pour le principe la séduction possible, une vieille habitude, on n'a pas toujours l'occasion d'en faire usage, mais il est bon de se tenir prêt. Les yeux noirs, il est aujourd'hui d'humeur exacte. Il compte les corps, il se sent une mission, il a bien dormi, il a pris le temps qu'il fallait pour se réveiller l'esprit dans un café trop fort, les yeux à la fenêtre. C'est un appel, il dit. Désolé pour la désorganisation, c'est une vocation. Homme pirouette, il se sent utile au monde et contre toute attente un brin colère ce matin dans l'arc-en-ciel. Il sait que les chats ont 9 vies. Les hommes autant qu'ils le décident, qu'on est plus souvent qu'on ne croit planté à la croisée des chemins, qu'il faut manœuvrer sans faiblir pour éviter l'enlisement, que c'est joyeux l'aventure. Au lieu de quoi, la plupart du temps, on lui répond que la route est droite et le malheur ancestral, et lui qui porte plusieurs siècles sur le dos, ça le laisse sans voix. Mais ce matin, il aura raison contre toute logique. Il sautera les barrières contre toute police. Il soutiendra le regard contre toute lampe braquée. Il aura le dernier mot contre toute logorée. Ce jour, il sait ce qu'il doit faire. Il n'arpentera pas une à une les rues pour le seul plaisir de sentir s'user ses semelles ou pour cette autre joie d'être dehors qu'il pleuve ou vente à l'heure où d'autres sont tenus dedans par des horaires d'école ou de travail. Ce jour, il ne sera pas buissonnier au hasard. Il, stratégique, a choisi le quartier où promener son inaction, celui où il dérangera, et pour votre plus grand plaisir. Ce qui l'attend, il sait où l'attendre et très tranquillement prend le chemin compliqué des abords des villes où la voiture se fait passer de loin pour le seul être vivant. Qu'il se méfie, l'homme, le chien, ses sentiers lui ont été ôtés pour desservir les aéroports et les centres commerciaux, qu'il ne risque pas la mort à hurler dans les phares, qu'il reste cantonné derrière les murs invisibles et les caméras de surveillance. Quant à moi, je veux, ce matin, orchestrer la symphonie des klaxons. Et chante les roues qui crissent. Il est heureux d'être debout pour se rendre dans ce quartier-là sans aucune convocation de redresseur d'âme tordue et sans boulet à la cheville, ni mort dans l'âme, ni peur dans la gorge, ni cri. Il est en avance sur l'heure des autres. Et c'est une odeur particulière à la fraîche qu'il prend soin de garder comme signe distinctif de cette journée-là. À tourbillonner tous les jours dans les rues et au coin des portes, il sait exactement celle qui ouvre sur des abris, celle qui ouvre sur des cages. Il la connaît, la ville. Dans ses écroulements et ses violences, il connaît cette entrée. Que tu la franchisses et on te passera au grand jet dévastateur. Non mais, il a un passé quand même. Il sait ce que ça fait d'être remis dans le droit chemin, celui qui n'est pas droit du tout, qui tourbillonne vers le bas, qui n'en finit pas de plonger et de réduire la silhouette à une maigreur bien docile. S'est plutôt sculpté la maigreur qui lui convient, alternant les grands festins et les jours où, distrait, il se nourrit d'une olive, d'une sieste en bord de plage ou d'une grappe de raisin. Il n'a pas d'âge, par conséquent, musclé comme un adolescent, édenté comme un vieillard, selon l'image qu'il lui convient de donner et pour rire. Ce matin, il s'est nourri d'un fruit, choisi avec soin sur l'étal et volé promptement. Il s'en contentera pour la journée, c'est ce qu'il décide, et cela semble suffire parfois pour dompter l'estomac, et quand ce n'est pas le cas, il croque dans d'autres délices, allonge le pas. Thank you. que c'est ici le trou dans la ville. Il s'est déjà tenu entre les briques, les vitres et les ferrailles de ce quartier, c'est son pays, la rouille. C'est l'endroit de la chute, il dit « Toi qui entres ici, regarde une dernière fois le soleil avant qu'on ne te sculpte les yeux avec du toc. » Il, mon Dieu, ces murs les connaît par cœur. Chaque graffiti, on pourrait croire que c'est lui qui l'a dessiné, mais il aurait choisi d'autres couleurs et des slogans à ébranler les têtes pour longtemps. Vacille pas. Il n'est pas pris du souvenir qui fait trembler, de l'image qui rend de nouveau fragile, il n'a pas le cœur froid, il n'a pas de rancune, il n'a pas mal au ventre en revenant, il n'a pas l'envie du feu, il n'a pas les maux de la violence, il n'a pas d'homme à abattre. Il sait le chemin parcouru. Il sait s'accommoder des cicatrices et tempérer la peau quand elle devrait rougir. Il préfère maintenant s'occuper un peu du temps qu'il fait et au lieu de souffrance, organiser des choses vastes. Peut-être qu'il dessine tout de même quelque chose, une forme de visage, de sexe ou de volcan, pour donner au mur blanc une allure plus canaille. Peut-être qu'il s'appuie juste, regarde autour de lui et sourit si largement qu'on en sursaute. Il est à l'endroit où se rejoignent les pas au ralenti. Ils arrivent de partout, les cassés, les bancals. Il le connaît par cœur, leur rythme à contre-temps. Il sait le sang qui, à l'intérieur d'eux, joue à faire des tours et des tours, et comme ils ont mal à la respiration. Il... L'espace d'un instant sent dans ses yeux affluer la douleur, revenir la chasser. Mais quand on est capable d'arrêter la pluie, on sait aussi remettre en ordre sa poitrine, ses souvenirs et ses élans. Il reconnaît, même de loin, les larmes sur les joues. Il sait ce que c'est, avoue qu'il pleure aussi dès qu'il peut. Quand une gorgée de vin rencontre un précipice, ces grandes tempêtes et nettoyages importants, petites cures par le sel et le bouillon, débouchage des pores obstrués, petite intimité entre soi et soi-même. Il, en empathie, va même jusqu'à dire qu'au fond, il aime ça. Mais aujourd'hui, c'est décidé, c'est retour du beau temps sur toute la moitié triste du pays. Séchage des asphaltes et troubles printaniers semés dans toutes les évidences. Il y avait longtemps qu'il fallait le faire, non ? Il plante, franchement, l'interrogation au bon endroit de la conversation et que pourrait-on lui répondre après tout ? Il a raison, il y a bien trop longtemps qu'on évite, qu'on traîne et qu'on attend. Il avise, l'œil rapace. Parmi la foule, il connaît le pas furtif de celui qui se cache. Il la voit de loin, cette tristesse au dos voûté. Il sait que rien ne viendra trop vite dérider le visage clos. Il observe et se tait, s'offre du moins en question, en possible. Devant la porte, il se tient droit. C'est haut d'être droit pour lui parce qu'il est grand. Et de le voir comme ça, quelques-uns lèvent au moins un peu la tête. Parmi ceux qui arrivent en face, parmi ceux qui cherchent la bonne adresse, il n'empêche pas tout à fait le passage. Il n'est pas menaçant quand il surplombe. Il a mis son visage doux, celui des soirs d'été, des heures amoureuses. Il ne dit aucun mot qu'il aurait préparé sur l'importance du grand demi-tour, trop général, il pense. Trop assommant pour ses têtes bien assommées déjà, on ne va pas jouer maintenant le jeu du prêche ou de la vérité quand il ne s'agit que de sauver un peu les corps, de dévier le fleuve gris. Alors, il sourit et c'est tout son programme. Évidemment, il est parfois saisi de doutes, de lassitude. Il a vécu assez d'heures adultes pour que les lèvres retombent de temps en temps d'elles-mêmes et ressemblent à des rides. La peau si fine sous les yeux aussi s'amuse à craqueler si le temps est trop long. Même quand on croit qu'adolescent, il se fiche de tout et cherche la bagarre. Heureusement que ce n'est pas mon métier tout le temps, il dit, ces invisibles attentats. Salut ! Oh, ce sourire quand il dit juste « salut » et que ça lui fait les yeux tout bleus. Tiens, cet homme qui pourrait s'offusquer qu'on lui dise « salut », qui pourrait prendre ça pour une moquerie de plus, cet homme a juste levé les yeux. Il a ralenti son pas vers la porte. Pour la première fois, rien ne semble fuir de l'intérieur de toi, n'est-ce pas ? Le sol s'est stabilisé entre les deux présences. Quelque chose a mis fin au tangage, à l'envie de vomir mécanique et permanente. Enfin, on redécouvre qu'il y a du vertical. « Ton cœur est un bélier malgré tout qui pressent l'abattoir et je l'entends donner des coups d'ici. Il pense. Très connaisseur en apeuré, il module sa voix pour que rien ne sursaute. Lui-même calme le tambour de son trac. Il dit « Vous ne voudriez pas plutôt profiter du soleil ?» Mais des fois, il est épatant. Il t'arrête le cours du temps comme ça et ça paraît normal. Pardon ? Dit l'homme, et c'est bien compréhensible. Il... Alors, ne voudrait pas se vanter, mais raconte que la pluie, quand il veut, il sait la faire taire. Pas à longueur d'année, bien sûr, il faut veiller à l'équilibre et à l'hydratation de tout. Et qu'il est bien content ce matin de faire quand même un peu le printemps. Vraiment ? Dit l'homme à qui depuis longtemps on n'avait pas raconté d'histoire. Ça tombe bien que ce soit aujourd'hui parce que je n'allais pas très bien. Se prend-il au jeu de deux sourires qui tout d'un coup se répondent, et à cet endroit-là, c'est tout un événement. Dans quelques jours, je ferai même se rallonger les jours. L'homme tressaille, à qui on fait une plaisanterie d'enfant. Non mais si on allait jusqu'au rire, j'aurais vraiment bien fait mon boulot. Il pense, lui. Même si ce n'est pas un boulot. De se poster aux endroits mornes pour y faire de la sympathie. On pourrait aller prendre un café, on pourrait faire connaissance, il dit. Puis immédiatement craint d'avoir parlé trop vite, craint le malentendu, craint la rétractation, le qui-vive, les défenses avec le beau temps revenu. Doucement, il calme les chevaux de la rencontre humaine. Rassurant, il précise... Ne me prenez pas pour un fou, c'est que je peux peut-être vous aider. D'accord. 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 D'accord, dit l'homme qui a tout perdu sauf la curiosité, et c'est une très grande chance. Nous allons faire demi-tour. Il détache chaque mot pour ne pas que se referme le visage maintenant ouvert de l'homme qui comprend sa langue. Ce qui compte, c'est de nous éloigner d'ici. Je connais un endroit très bien. Je vous demande de vous fier à la musique de ma voix. Je vous demande de vous fier à la musique de ma voix. Je vous demande de vous fier à la musique de ma voix. Quand il sent qu'il le peut, il accélère le pas. Vous voyez comme il existe encore un semblant d'espace. On dirait un parking, mais c'est plutôt un peu d'air découpé en carrés. Doucement, dit l'homme qui depuis des années n'a pas couru comme ça dans les flaques. Vous avez de longues jambes et moi le corps rétréci au possible. Il, alors, dans ces moments-là, se retourne et pour la première fois regarde vraiment quel genre de personnes il entraîne dans son sillage. Parfois, elles sont plusieurs ensemble qui, pour mieux le suivre et ne pas se sentir perdu, se tiennent fort la main ou se jettent à n'en plus finir des œillades incrédules. Ce matin, c'est un homme qui devait être beau quand il existait encore, quand on ne le traitait pas en vieillard avant l'heure, quand on ne confiait pas chaque jour pour tout sa place à quelqu'un d'autre. C'est un homme, vivant à la sueur qui perle, aux essoufflements dans l'effort. C'est un homme aux doigts moites et aux ampoules aux pieds. Il regarde. Pourrait être fils ou frère, avec ce corps de garçon gras, ces poils à la poitrine qui dépassent de ta chemise et trahissent ta blancheur. Mais d'une autre tribu que moi, tu as été de ceux qui portent des cravates, qui manipulent les boutons d'une télécommande, allument une télévision. Il dit plutôt... Ça va ? Ne courez pas. Je ralentis. C'est vous, au fond, qui décidez du rythme et de la route. Ne courez pas. Je ralentis. C'est vous, au fond, qui décidait du rythme et de la route. c'est vous, au fond, qui décidez du rythme et de la route. C'est vous qui décidez du rythme et de la route. C'est vous qui décidez du rythme et de la route. D'autrefois, aimante de frêles filles qu'il porte au bras. Je devrais avoir peur de vous, disent-elles quand elles reprennent leur souffle. Je sais que je devrais trembler, commencer à crier comme on voit dans les films. Vous avez tous de ces démons avec vos grands yeux verts. Alors, il les repose délicatement sur le bitume et presse sa main contre son cœur. C'est ici que nos chemins se séparent. J'espère vous avoir fait gagner un peu de temps. Il a alors toute la tragédie sur le visage et conclut dans un souffle. C'est dommage. Je vous aurais bien montré la mer. Dommage. Attendez, elles reprennent. Attendez, je choisis de vous faire confiance. Vous m'avez redonné le goût de l'aventure. Est-ce que c'est ce que vous cherchiez ? Il étire haut les lèvres. Dans ces journées-là, il a à peine 20 ans. montez sur mon dos, cher moineau. Il y a la vie à dérouler sous nos semelles. Montez sur mon dos. Montez. Montez sur mon dos, cher moineau. Il y a la vie. Il y a la vie à dérouler sous nos semelles. Montez sur mon dos, cher moineau, il y a la vie à dérouler sous nos semelles. Attention, il dit et il est sérieux, et il veut vraiment qu'on l'écoute. Je ne vous guide pas vers un endroit particulier, je n'ai pas de révélation à vous faire. Je ne porte aucune parole que la mienne, qui suit le fruit de mes humeurs, de mes colères et de mon appétit. D'autre part, il prévient et il a bien raison, il n'y a pas de paradis sitôt qu'on a passé l'autoroute. Le langage qu'on vous tient dans cette ville, c'est partout qu'on vous le tiendra. Il est comme le vent qui passe sous toutes les portes, qui prend la forme qu'on lui permet de prendre et qui se sort grandi en plus de la traversée des tunnels. Je n'ai pas de révélation à vous faire. Je ne porte aucune parole que la mienne, qui suit le fruit de mes humeurs, de mes colères et de mon appétit. D'autre part, il n'y a pas de paradis sitôt qu'on a passé l'autoroute. Le langage qu'on vous tient dans cette ville, c'est partout qu'on vous le tiendra. Il est comme le vent qui passe sous toutes les portes, qui prend la forme qu'on lui permet de prendre et qui se sort grandi en plus de la traversée des tunnels. Combien ont été emportés, n'est-ce pas, par le mot qu'il met par terre ? Non, je n'ai pas de révélation à vous faire. Ce n'est pas, je vous l'accorde, l'endroit du monde le plus joli. Par le phénomène qui veut que l'humanité rejette sur les côtés ce qu'elle ne veut pas voir en son milieu. Bientôt, nous verrons surgir des épis de blé entre deux zones industrielles. Il suffit de s'éloigner des routes pour trouver des endroits oubliés. La négligence des bâtisseurs de plastique est grande. Profitons-en pour nous enlever tous ces camions de la vie. Langage qu'on vous tient dans cette ville, c'est partout qu'on vous le tiendra. L'homme acquiesce. Il sait bien tout cela. S'il a des courbatures partout, c'est qu'il a essayé un temps de tenir droit dans les bourrasques. S'il saisit la main qu'on lui tend, c'est pour faire encore quelque chose.
Le dispositif qu'on a choisi là pour cette performance, voix et ordinateur en quelque sorte, avec des matières violoncellistiques préenregistrées qui sont recombinées en direct. Voilà. Et donc l'idée c'était d'avoir, on s'était dit qu'on essayait d'avoir chacun une écriture spécifique, moi plutôt musicale, toi plutôt littéraire. Et puis de se laisser traverser par la matière de l'autre, et puis de voir un petit peu comment elle venait en confrontation, transformer son écriture en fait, en quelque sorte.
Ce qui n'était pas évident, c'est que le texte était déjà écrit. Voilà, il n'y avait pas tellement de part d'improvisation dans l'écriture même, donc ça s'est vraiment joué dans la lecture, dans le rythme.
Et puis aussi
dans les silences ou la modulation de la voix. Mais voilà, c'était pas à l'endroit même du texte.
Alors, tout à fait.
Et en même temps, je me suis amusée à reprendre des phrases, à les mettre en boucle. Ça, c'était pas vraiment prémédité, mais j'ai eu quand même cette envie-là. Quoi. Je pense que la musique aussi m'a apporté cette envie de m'amuser avec certaines phrases,
d'être revenir plus dans du rythme, dans une proposition un peu rythmique ou de répétition,
puis de variation. De quoi, variation. De dire, tiens, cette phrase-là, comment on pourrait la dire autrement, peut-être que... Ça m'a amené, en fait, c'est marrant, j'ai eu une sensation que ça m'a amené un jeu assez théâtral. Mm-hmm. Finalement, j'étais plus dans une sorte d'incarnation, justement sur ces moments-là où je reprenais des choses en boucle. la sensation.
Et donc ça agit en fait sur plus, ça transformait ta lecture, ta temporalité de lecture, peut-être aussi des jeux de lecture.
Ouais.
Mais est-ce que ça a aussi transformé, on va dire, des choses qui ne se voient pas ou qui ne s'entendent pas, qui seraient ta perception du personnage, de ton personnage, ou bien peut-être ouvert de nouvelles pistes parce que là, tu es encore en train d'écrire, c'est pas un texte qui est achevé. Donc,
c'est un texte qui est en chantier.
Qui est encore, en chantier. Ouais. Et,
Ça a mis en lumière, en fait, une dimension qui est une certaine nonchalance. Parce qu'en fait... C'est vrai que le dispositif, moi j'ai l'habitude de lecture publique où en fait le souci de la voix c'est plutôt de projeter, d'être sûr que tout le monde entende et où on peut assez peu moduler, quoi, jouer avec, même si parfois il y a un micro, c'est quand même pas le même confort. Là le dispositif en fait était très, pour moi très, très confortable, très rassurant, on est quand même dans un cocon sous un casque. Et du coup, ça m'a amené une tranquillité qui, je pense, est aussi celle du personnage, quoi. Ça m'a confirmé qu'il pouvait avoir ces moments-là un peu... nonchalants, quoi, un peu...
Oui, c'est...
Cool aussi, quoi. C'est pas seulement que je l'imaginais comme une sorte de diable qui sort d'une boîte. Il y a ça par moment, mais c'est aussi, quelqu'un qui vient calmer les choses, quoi. Apaiser, désamorcer, et puis voilà. Je décris des personnages qui sont en marche, qui marchent, mais d'habitude, quand je lis, je leur laisse pas le temps de marcher, en fait. Et là, je me suis dit, là, vraiment, je les ai entendus marcher, en plus, dans ce que tu proposais. Il y a des moments où j'entendais vraiment à quel rythme ils pouvaient marcher, si c'était d'un pas heurté ou au contraire, une marche plus... qui coulait plus, quoi. J'ai vraiment... En tout cas, moi, ça m'a ouvert un imaginaire à cet endroit-là, quoi, du rythme du corps et de la marche.
Moi, de mon côté, c'était assez étonnant parce que les mots, donc, véhiculent du sens.
Et en plus, tu découvrais le texte.
Je découvrais le texte. Mais donc, l'idée, ce n'était pas d'illustrer ton texte, c'était vraiment de proposer une écriture singulière et autonome, sonore, qui n'avait parfois absolument rien à voir avec le sens que je percevais de ta narration.
Justement, j'étais assez... à l'affût du contrepoint aussi, tout à coup, puis qui me permettait, moi, de venir en rupture. Aussi, j'ai tenté quelquefois des attaques un peu, comme ça. Et du coup, ça amène vraiment du jeu. Ça amène l'envie de se surprendre aussi. Je me disais, attention, n'ayant pas l'habitude de cet exercice-là, attention de ne pas être trop poli aussi, c'est-à-dire de... alterner très
oui c'est vrai qu'il y avait aussi
l'autre, même s'il y a des moments où ça s'impose parce que dans le rythme
c'est vrai qu'il y a
j'avais envie de te couper ou de superposer face même si c'était un peu une décision qui pas naturelle quoi enfin un peu
J'ai aussi utilisé les codes habituels de la relation texte-musique. Je pense qu'on a joué aussi toutes les deux avec ça. C'est vrai que, par exemple, si je prends un exemple très concret, si je mets en place une cellule sonore et que petit à petit je la fais disparaître, c'est très télécommandé, quoi. C'est je disparais, à toi de prendre la parole, par exemple. Et ce qui était agréable, c'est que ça n'a pas été toujours. Enfin, la logique n'a pas été celle-là à chaque fois.
Oui, voilà, la part d'aléatoire aussi, là, je me suis autorisée, et c'est rare en lecture, à ce qu'il y ait des vrais silences. C'est-à-dire, comme tu disais, pas forcément à enchaîner dès que le son s'efface, mais à se dire, si on prend un temps toutes les deux aussi,
ça raconte
quelque chose, et puis pourquoi pas.
C'est vrai que c'était très précieux, ça, j'ai bien aimé ces temps.
Même si à la radio, le silence, mais je pense que ça peut faire du bien aussi. Une respiration, puis...
Oui, tout à fait, puis je pense que c'est une suspension. Enfin, moi, je l'ai perçue comme une suspension. Après, je ne sais pas quand on est auditeur derrière son poste de radio, comment ça s'entend, mais...
Puis là, comme ce texte-là, je suis encore en recherche dessus, il y a un endroit que je cherche dans l'écriture qui est un endroit de déséquilibre. C'est-à-dire de... Comme j'ai un peu de voix, il y a l'endroit des ruptures, moi, m'est apparu vachement clairement du fait, en plus du de la part d'aléatoire dans nos propositions, du déséquilibre qui pouvait se créer dans ces silences qui apparaissent, dans qui c'est qui va réattaquer, est-ce qu'on réattaque ensemble, est-ce qu'il y a un décalage. Et ça allait vraiment, pour moi, dans le sens de ce que je cherche dans cette partie-là de ce texte, qui est de déstabiliser un petit peu, quoi, même en termes de rythme,
En termes d'interprétation, en fait, puisque ouais. Tu interprètes ton texte.
Sans se laisser complètement contaminer par l'univers que toi tu apportais pour tenir mon fil, ça m'a apporté soit cette tranquillité-là, soit tout à coup l'envie, de m'amuser avec quelque chose de plus ludique. Et c'était vraiment en réaction et en essayant de ne pas être, comme tu le disais, quoi, dans l'illustration ou dans la contamination aussi.
Non, mais c'est vrai qu'on le perçoit aussi un peu comme ça, parce qu'on se fait aspirer. Moi par le sens, toi peut-être plus par le sonore qui crée des climats et qui crée des ambiances.
En tout cas là sur le coup, tu vois, je ressors avec quelque chose à la fois une excitation de justement de m'être fixé des règles du jeu au fur et à mesure sur ces silences, sur les quand est-ce que j'attaque, que ce soit pas systématique, et en même temps quelque chose de très serein. Enfin, ça avait pas été déstabilisant au point d'enlever le plaisir de lire et d'y aller. Enfin, c'est vrai qu'il y a quelque chose de rassurant dans le fait d'avoir quand même une partition écrite sur cette matière-là. Après, ce qui se module à l'intérieur, c'est les modalités de la lecture. Mais
oui, ça t'a pas vidé de ton contenu. Tu t'es pas senti.
Je retombe sur mes pattes ou pas, mais en tout cas, je suis. Je sais où je vais, donc je peux d'autant plus m'amuser avec des contraintes, avec...
Et le temps, les 45 minutes, ça t'a semblé... Enfin, toi, t'es habituée, en fait, à faire des lectures d'une heure, tu me disais.
Une heure, c'est long, c'est un peu le maximum.
Une heure, c'est le maximum, ouais.
Là, c'était... Je trouve que c'était le juste temps pour que ça se développe. Et comme il y avait des vrais temps que je prends pas d'habitude, c'était plus confortable, quoi, que si c'était 45 minutes de lecture seule,
En solo, oui.
Ouais. Là, ça permettait vraiment d'à la fois écouter et être dans l'action.
Et j'ai pas trop fait attention, en fait, à la façon dont tu t'avais choisi c'était des bouts de texte ou c'est un texte linéaire que tu as pris, enfin tu as pris un extrait, mais...
Alors c'était linéaire, et en même temps, à la fin, quand on était dans les cinq dernières minutes, du coup j'ai sauté des paragraphes, j'ai un peu aménagé...
Pour trouver une fin.
La fin, ouais, pour pas me relancer dans un mouvement qui aurait pris plus de temps, ou que j'aurais été obligée de couper, donc j'ai sauté à... moi aussi, c'est des petits modules, des petits paragraphes plus courts que j'ai remis un petit peu en boucle, mais voilà, plutôt que de rouvrir un autre chapitre.
D'accord.
Donc ça, c'était pas du tout prémédité.
C'était de l'adaptation en temps réel.
Ouais, voilà, là j'avais mes feuilles, mes paragraphes là sur la table, je me suis dit, tiens, non, celui-là, je vais pas me lancer dedans. Hop, on peut sauter directement à la page d'après. C'était amusant aussi, du coup, voilà, après coup, je me dis, tiens, j'aurais pu me donner cette liberté-là plus tôt.
Naviguer dans ton texte.
Ouais, voilà, de faire du cut-up, là, d'aller chercher. Mais là, en plus, moi, c'est presque la première fois que j'ai un texte aussi narratif. Vraiment, à la troisième personne. Enfin, j'en ai d'autres, mais qui tiraient plus vers la poésie, où on pouvait plus interchanger les paragraphes. Là, bon, il y a vraiment... ça suit une journée, il y a un déplacement, il y a une vraie chronologie, donc c'était presque un peu paradoxal, en fait, de choisir ce texte-là, qui était peut-être le moins malléable de ceux que j'ai écrits. Mais en même temps, bon, voilà, c'était une contrainte de plus, quoi.
Oui, puis, non, mais justement, je trouve que c'est intéressant, parce qu'on se retrouve vraiment à ces endroits de frottement, des endroits où on sort d'une logique habituelle. Et donc, on ne connaît pas bien, on ne sait pas trop où on va. Et c'est là où vraiment émergent des choses où on peut un peu s'étonner soi-même. Tu vois, enfin, moi, c'est vraiment cet endroit qui me... qui me fascine, j'avoue.
Ouais.
Et puis qui,
il y a de quoi.
Ouais, qui que j'aime bien. Enfin, j'aime bien essayer de trouver, de penser des dispositifs qui permettent ça, en fait, qui permettent de sortir de nos logiques de construction, de nos logiques personnelles, même d'une certaine logique de la rencontre, parce qu'il y a dans la rencontre, il y a aussi plein de choses de coder.
Oui,
on
oui.
s'écoute parler, on prend la parole l'une l'autre, on explique ce qu'on fait. Enfin, tu vois. Et certes, voilà, c'est important, c'est intéressant, il faut savoir le faire.
Sinon, oui, quand
ça,
même.
Ça devient très compliqué.
Oui.
Mais ce qui est bien aussi, c'est d'arriver à trouver des temps et des espaces qui permettent tout d'un coup de bousculer un petit peu toutes ces logiques. Mmh. Et là, je trouve que dans cette performance là qu'on a faite à deux, je trouve qu'il y avait ça vraiment. Enfin, je l'ai ressenti personnellement. Après, je sais pas ce que ça donne à l'écoute, si ça se perçoit à l'écoute, j'ai aucune idée. Et puis, il est possible que moi je l'ai ressenti très fortement et que toi peut-être un peu moins parce que c'était pas forcément
c'était
ton objet de préoccupation.
Des sensations infimes, ouais, de me surprendre, de voir que je t'ai surpris. Ou au contraire, quelque chose qui se déroule très, très naturellement. Enfin, donc je ne sais pas, ouais, je ne me rends pas compte si c'est perceptible, mais c'est de l'ordre de la micro-sensation au fur et à mesure. Quoi.
Et est-ce que, alors ça c'est une question que je me suis rarement posée, que j'ai rarement posée aux autres invités de la Fabrique de Musique, est-ce que tu as eu conscience ou t'as conscience ou t'avais conscience pendant la performance, qu'elle est diffusée, en fait, qu'elle est écoutée, qu'il y a des auditeurs et que on n'est pas juste toutes les deux dans notre petit studio.
Alors en même temps, je sais pas, je pense que ça vient aussi de la nature de ce texte-là où je raconte une histoire.
D'accord.
Du coup, c'était quand même présent que je racontais.
Raconte.
Quoi. Donc que potentiellement, il y avait quand même des destinataires de l'histoire racontée. Enfin, c'était quand même présent dans ce sens-là. Après, ça n'a pas empêché d'avoir une sensation quand même très intime. Je pense qu'il est vraiment lié au casque quand même, au fait d'entendre sa propre voix aussi. Ouais, pour moi, ce n'est pas du tout habituel. Du coup, mais quand même, il y avait ce souci-là de est-ce que ça passe et est-ce que du coup le plaisir que moi je ressens à le faire, à être dans le moment, quoi, dans le présent, est-ce que ce sera perceptible pour les auditeurs?
Merci beaucoup, Mariette.
Merci.
À la technique ce soir, David Braun et Damien Fourcault, grand merci à eux. Retrouvez le travail de Mariette Navarro dans L'écho de la fabrique, une émission concoctée par Julien Hérault. À très bientôt.